Je donc vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour ce temps de partage. Et ce que la sœur Ruth a présenté m'a beaucoup interpellé parce que vraiment je suis d'accord à 100% avec ce qu'elle a dit. Et je crois que dans ce sens-là, on va se compléter un peu tout juste. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, au fur et à mesure que nous allons dans le christianisme, nous progressons, nous nous laissons emporter par la périphérie du christianisme et nous abandonnons la substance qui en fait la substance. Nous sommes préoccupés par l'extérieur et ce qui en fait la force, nous mettons de côté. Il y a quatre dimensions, en quelque sorte, dans la vie d'un chrétien, quand quelqu'un devient chrétien. Dans un premier temps, comme tout bébé, il est intéressé aux mains de sa mère, les mains de sa mère. Nous sommes intéressés aux mains de Dieu, dans un premier temps, et nous sommes intéressés simplement à ce que Dieu peut nous donner, les provisions de Dieu. Nous sommes tout le temps là, dans la joie, quand Dieu ouvre ses mains et dépose sur nous des bénédictions. Et souvent, certains ne quittent jamais cette enfance spirituelle, qu'on appelle népios, des chrétiens charnels, qui sont à la recherche permanemment de l'attouchement de Dieu, c'est-à-dire des mains ouvertes de Dieu pour les bénir. Et dans les églises, ils deviennent des gens qui n'ont pas grandi, qui n'ont aucune maturité, parce qu'ils ne s'intéressent qu'aux mains de Dieu. Un deuxième groupe, sachant qu'on ne peut pas grandir en s'intéressant seulement aux mains de sa mère, qu'il faut à un moment donné marcher, un deuxième groupe de chrétiens passe des mains et commence à découvrir qu'il faut marcher avec Dieu. Ça, c'est la sécurité. Quand on marche avec lui, on prend de l'assurance, comme un enfant qui commence à marcher et sa maman le tient dans ses mains, comme ça, tient ses mains. Il y a une certaine assurance que cet enfant a. Il commence à marcher avec sa mère. Ça, c'est le deuxième groupe de chrétiens qui commence à grandir. Ils ne sont pas là tout le temps en train de demander à Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il commence à effectivement savoir qu'il faut marcher avec Dieu, qu'il faut aller là où Dieu veut qu'on aille. Et ces chrétiens apprennent à grandir. Ils apprennent la marche par la foi, ils apprennent à marcher selon l'Esprit, et leur vie en est transformée. Ça, c'est les deux genres de chrétiens qui sont encore dans l'enfance spirituelle et dans l'adolescence. Il y a deux aspects du christianisme concernant Dieu toujours et le peuple. Quand j'ai appris à recevoir de Dieu les bénédictions de ses mains, je me réjouis, Dieu me bénit, Dieu pourvoit mes besoins, Dieu, je suis content. Alors j'ai décidé de marcher avec Dieu, de marcher selon l'Esprit par la foi. Et là, je commence à rencontrer quelques difficultés. Quand on marche, on est en risque. Toute personne qui veut marcher, toute marche est un risque. Dès que vous levez le pied pour marcher, vous êtes en déséquilibre. Et la marche de la foi est une marche de déséquilibre. Vous ne pouvez, à moins si vous sautez comme ça, vous n'irez pas loin. Si vous marchez comme ça, vous n'irez pas loin. Le seul moyen de progresser, c'est de lever les pieds. Là. Et dès que vous levez les pieds, vous êtes déséquilibré. Ça, c'est la marche du chrétien. Maintenant, pour ceux qui commencent à grandir, qui commencent à découvrir la réalité de la vie chrétienne, ils se rendent compte que Dieu n'est pas intéressé seulement par le fait que ses mains nous bénissent et qu'il marche avec nous, comme avec Adam dans le jardin. Il a béni Adam. Il a marché avec Adam dans le jardin. Mais regardez maintenant ce qui va arriver, les deux aspects qui restent. C'est le visage de Dieu. Quand un enfant quitte l'enfance, il commence à regarder le visage de son père ou sa mère, si son père et sa mère sont contents de lui. Les différents aspects du visage de la maman ou du papa montrent que cette maman, même si elle dit rien, le fait que l'enfant a posé tel acte, ça l'attriste. Et l'enfant commence à apprendre autre chose. Qu'on n'est pas seulement béni par les choses de la main, qu'on ne marche pas seulement avec Dieu, avec notre mère, notre père, qu'il faut apprendre à cette maman et à ce papa-là de se réjouir, qu'il n'est pas tout le temps le visage triste. Alors, peuple de Dieu, je vous pose la question cet après-midi. Déjà à ces trois niveaux-là, où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Tout le temps, Dieu bénis-moi, guéris-moi, change mon mari, change mes enfants. Seigneur, apprends à marcher avec toi. Apprends-moi à marcher. Et tu ne fais pas attention si le Père est content de toi ou pas. Son visage ne t'intéresse pas. Tu es indifférent à son visage. Tu ne sais pas si papa est heureux ou pas. La seule chose qui t'intéresse, ce sont ses mains et ses pieds, ta sécurité. Nous montons un peu plus. Donc, le visage. Mais en réalité, ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement les mains. Ce ne sont pas ses pieds. Ce n'est même pas son visage. C'est son cœur. Est-ce que tu, le cœur de Dieu, tu connais le rythme du cœur de Dieu, le battement de Dieu, du cœur de Dieu? Le cœur de Dieu bat pour quoi dans ce monde-là? Tu ne sais pas. C'est pourquoi au dernier souper, au moment où tous les disciples cherchaient une solution, il y a quelqu'un qui a compris, il s'appelle Jean. Il est parti simplement poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Il voulait savoir qu'est-ce que cet homme-là, qui dit qu'il va mourir là, qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Quel est le battement du cœur de Dieu? Qu'est-ce qui fait battre le cœur de Dieu? C'est ça que je veux savoir, la vie chrétienne. Qu'est-ce qui plaît au cœur de Dieu? Le Fils est descendu dans ce seul but. Il est devenu homme. Parce qu'il voulait simplement, il dit, je ne fais que ce que le Père me dit. Je suis descendu uniquement pour accomplir la volonté de mon Père. Le cœur de Dieu bat aujourd'hui pour les habitants d'Yverdon. Le cœur de Dieu bat pour les Suisses. Plusieurs catégories, nous allons voir pour lesquelles le cœur de Dieu bat. Mais si encore, tu n'es qu'aux mains de Dieu, les pieds de Dieu, la face de Dieu, pour qu'il ne soit pas fâché contre toi, tu fais tout pour ne pas pécher, alors tu as manqué le but. Car le but final, c'est de découvrir ce pourquoi le cœur de Dieu bat. Le cœur de Dieu bat pour les pauvres. Le cœur de Dieu bat. Quand je parle des pauvres, je ne parle pas des pauvres d'Afrique ou d'Asie. Non, mon ami, il faut arrêter de prendre vos petits dictionnaires et analyser les mots pauvres. La Bible a apparu avant Larousse et le petit Robert. Donc, je ne parle pas de ça. Laissez tomber ces choses-là. Je parle des pauvres selon la Bible. Le cœur de Dieu bat. Et ce cœur-là bat. Si toi, ton cœur ne bat pas au même rythme que Dieu, à un moment donné, tu vas trouver que ce que Dieu te demande est trop. Par quand le cœur de Dieu bat, qu'est-ce qui fait battre le cœur de Dieu? L'amour agapao. L'amour qui excuse tout, qui croit tout. Pas l'amour philéo. Pas l'amour qui finit. Pas l'amour sentimental. Car tout ce qui est sentiment, le sentiment. Tout ce que vous sentez, ça ment. Vous avez un sentiment pour cette jeune fille-là, 3 ans, vous voulez divorcer. Donc, votre senti a menti. Dieu ne s'intéresse pas aux sentiments ni aux émotions. C'est nous qui sommes blessés. Dieu va plus que ça. Dieu a un amour qui est sa nature et son cœur. C'est cet amour qui fait battre le cœur de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, cet amour sur la terre s'appelle compassion. Non pas pitié. La pitié, on regarde la chose, on tourne le dos. La compassion, quand on regarde, l'amour jaillit et on s'identifie à la personne, on va vers la personne, on aide la personne à sortir de sa situation et on marche avec cette personne. Dieu a eu compassion de nous, il a envoyé son Fils qui est descendu comme un simple homme, qui a pris nos péchés sur lui, qui a osé marcher. Dieu qui ne mange pas là-haut, Dieu qui ne dort pas là-haut, s'est rendu un homme qui dort, un homme qui est limité, un homme qui est fatigué, un homme qui va de lieu en lieu, cherchant les pauvres, les démunis, cherchant, s'asseyant au bord des puits, avec des femmes rejetées, allant partout. C'est ce cœur-là. Ce cœur était soutenu par l'amour de Dieu, l'amour agapao. Alors, si tu n'as pas découvert ce cœur, je comprends que la vie de l'Église te plaît plus que l'ordre de mission de Dieu. Je comprends que te résumer dans un cercle, dans une petite association d'adoration, de louanges et de quelques prédications de 15-20 minutes saupoudrées à la sauce de gombo ou autre chose, ça te plaira et tu as fait ton devoir dominical et tu t'en vas jusqu'à la prochaine fois en disant au revoir monsieur Dieu à la dimanche prochain. La vie chrétienne ce n'est pas là. Les premiers chrétiens n'avaient pas de bâtiment. Ils ont envahi le monde. Les premiers chrétiens n'avaient pas de bâtiment. Ils ont envahi le monde. Ils n'avaient pas de bâtiment. Ils ont envahi le monde. Ne me dites pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu était en eux. L'amour les poussait à savoir, Seigneur, ceux qui sont partis au Laos là, c'est l'amour qui les a amenés au Laos. Ils ont quitté les choses. Ce matin, je les ai écoutés hier. C'est l'amour de Dieu qui a saisi cet homme et sa femme qui étaient bien. Il les a soulevés et les a transportés là-bas au Laos. C'est cet amour qui fait que, malgré le fait d'interdiction de prêcher la parole de Dieu, ils font des efforts pour montrer à ces Laotiens, donc ces hommes et ces femmes-là, quelle est la vie de Christ. C'est de ça que je parle. C'est ce cœur-là que Dieu nous a donné. Et si nous ne prenons garde, nous allons nous tromper et nous allons penser que le fait d'être sauvé, ça suffit. Beaucoup de gens disent « Oui, je suis sauvé ». J'ai été sauvé en telle année, à tel endroit, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Formidable, formidable, tu es sauvé. Mais le salut, mon ami, regardons quelque chose dans 1 Corinthiens 3. L'apôtre Paul nous dit ceci, il nous dit simplement, il parle de la construction de la vie. Il dit que personne ne peut poser, un verset 11, un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il y a plusieurs manières de bâtir. Il y a plusieurs manières de faire l'œuvre de Dieu. Quel est le matériau que vous utilisez pour l'œuvre de Dieu? Chacun de ces matériaux correspond à la qualité de vie et à l'honneur que tu donnes à Dieu dans son œuvre. Si c'est du foin, tu sais bien que le foin, dès qu'on met le feu, ça part. Le foin, c'est quoi? Ce sont des décisions que tu prends artificielles, des choses que tu donnes à Dieu comme cela, de ceux dont tu te débarrasses. Ce sont des choses qui n'ont pas d'impact sur le ciel. Ce sont des choses qui sont éprouvées quand le feu, on y met le feu ici, ces choses-là disparaissent. Il dit, mais l'œuvre de chacun sera manifestée. Écoutez-moi. L'œuvre de chacun, de tout chrétien dans ce monde-là, qu'il soit chrétien occidental, qu'il soit chrétien américain, qu'il soit chrétien africain, asiatique ou de l'Océanie, l'œuvre de chacun, que vous soyez d'accord ou pas, il ne demande pas votre avis. Un jour, vous le trouverez face à face. Votre œuvre sera manifestée. Et devant le monde entier réuni. L'œuvre de chacun sera manifestée. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car le jour la fera connaître. Le jour la fera connaître. Les gens applaudissent cette femme-là. Les gens applaudissent cet homme-là. Les gens disent qu'ils font telle chose. Non, ne vous inquiétez pas. Le jour viendra où ce que tu as fait sera manifesté. Ce n'est pas les applaudissements des gens qui comptent. Non. Il dit, le jour la fera connaître parce que elle se révélera dans le feu. Elle se révélera dans le feu. Le foin, la chaume, la paille, l'or, autre, quand on les met dans le feu est le seul moyen pour savoir si ce matériau, il est durable ou pas. On ne peut pas éviter, on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper. Le feu, quand on le met, que tu sois d'accord ou pas, tu regardes et tu vois toute ton œuvre partir en fumée. Écoutez-moi, je vais vous donner un témoignage personnel. En 1995-96, l'onction de Dieu était sûrement tellement puissante et à tel point que lorsque je prenais simplement le mouchoir, ce que vous voyez avec les bénis in aujourd'hui, en 96-97, moi, je levais les gens, quand je jetais mon mouchoir, tout le monde était à terre. Les gens étaient là et les gens étaient guéris puissamment. La puissance de Dieu se manifestait. Jusqu'au jour où j'étais sur l'estrade en train de prêcher, dans un orgueil, croyant que l'onction maintenant était le tempo, le sceau de Dieu pour me dire que je lui plaisais en tout, j'ai prononcé une parole orgueilleuse là à l'angle, je savais que c'était fini pour moi. J'avais offensé terriblement le Saint-Esprit. Je suis tombé malade. Ce poumon droit est rempli d'eau et pleurésie. Ils ont dit pleurésie tuberculeuse. Le médecin français a dit c'est un cancer et tout. Ils ont tout fait. Ma femme était du corps médical. Ils ont tout fait, rien. Ils ont mis les cortisones, ils ont tout fait. Ils ont ponctionné, ils ont enlevé 3 litres d'eau, 3, 4, chaque fois ça revient. Et Dieu m'a dit, viens te coucher, on va te parler. Viens, on va se parler. J'étais couché là, 6 mois. Et je me disais, mais comment? J'ai prié pour des malades, j'ai vu des cancéreux, j'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des sourds entendre et moi je suis couché, Seigneur, c'est une honte. Il m'a dit, c'est pas une honte. Quand vous les prédicateurs, je vais vous parler, vous avez tout le temps les yeux fixés sur l'horizon. Il faut que je vous mette sur le dos pour que vous regardiez vers le ciel. Il dit, maintenant parlons, qui est là pour t'admirer? Personne n'est là pour t'admirer? Tu es avec moi, parlons. Et il est parti sonder mon cœur. C'est terrible, hein? Il est parti sonder. Il n'a pas regardé à la surface. Il n'a pas regardé aux applaudissements des hommes. Non, Dieu, l'œil de Dieu va plus loin que cela. Dieu est parti prendre les choses les plus cachées dans ma vie. Et il les a sorties une à une. Il dit, alors, et ça? Ta relation avec ta femme, ça va bien? Il dit, oui, ça va. Il dit, mais tu es sûr? Amène tes enfants. Appelle tes enfants, ils vont venir. Ils vont te dire si ta relation va. Je me suis couché sur le lit. Il dit, ne parle pas. Fais-toi entourer par tes 4 enfants et ta femme. Ne dis aucun mot. Écoute ce que tes enfants voient en Mamadou Karambiri, le soi-disant grand évangéliste. J'ai demandé au dernier, le plus petit à l'époque. Il avait 6 ans. J'ai dit, alors David, que penses-tu de moi? Il a dit, papa crie trop. Oui, oui, on ne fait rien. Papa, il crie tout le temps dans la maison, il crie. Il crie derrière nous. Ah, il dit, ah bon? C'est comme ça que tu vois papa? Oui. J'ai demandé à la plus jeune, qui est aux États-Unis actuellement, mariée là-bas. Elle me dit, oui, mais ce que David a dit, c'est vrai, papa. Les 4 enfants, quand ils ont fini de parler, j'étais mouillé comme quelqu'un qui est passé au pressing. Tout mon habit était mouillé. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Cet homme qu'on appelle grand homme de Dieu, qui se promène de continent en continent, voici sa misère dans sa maison et voilà ce que ses enfants voient en lui. Quand c'est fini, j'ai dit aux enfants de partir. Il restait le gros lot. Le gros lot, c'est qui? La femme. Alors, j'ai dit à ma femme, vous voyez là, je me suis fait tout petit. Pour qu'elle ne parle pas, j'ai coupé rapidement, dit, tu as quelque chose à dire? Elle dit, non, mais je n'ai plus rien à dire. Si je parle maintenant, on va t'enterrer. Tu as entendu ce que les enfants ont dit? Il dit, oui, oui, madame, j'ai entendu. Quand j'ai échappé à ça, plus jamais j'ai recommencé ça. J'ai changé en tant que papa. Donc, c'est le premier jugement. Le jugement familial que mes enfants ont montré que papa avait bâti sa relation familiale avec la paille. Ils ont mis du feu, c'est parti. Deuxième jugement, c'est dans une vision. Nous étions dans l'ancien bâtiment où nous étions en train de faire l'église. L'église grandissait. 97. Brusquement, Dieu montre une flamme bleue qui descend du ciel. Un nuage bleuté qui descend du ciel, très beau. Et quand le nuage arrive sur le bâtiment d'église où nous étions, en ce temps, le bâtiment avait 1000 places. Quand le feu arrive sur le, quand le nuage arrive sur le feu et le bâtiment, brusquement, je vois que nous étions assis avec les pasteurs dans l'église. On était 5 ou 6 à l'époque. J'ai vu que tout le crépissage du bâtiment est parti. Et je ne voyais que de la paille et de la terre, le banco. J'ai dit, non, mais ce bâtiment est en pierre, c'est en ciment, c'est en béton. Non, mais ce que je voyais, il n'y avait ni béton ni rien. Il n'y avait que de la paille et des bancos. Et un seul coup, quand ce nuage bleu a touché le bâtiment, d'un seul coup, boum, est tombé sur nous. Personne n'était blessé, on était assis là. Et quand le bâtiment est tombé, toutes les briques sont été à nos pieds. Personne n'était blessé. Et la voix de Dieu me dit, je viens de juger ton œuvre sur la terre et je ne l'ai pas trouvée bonne. Et au moment où il dit ça, la gloire de Dieu descend, va jusque sur le fondement, c'est-à-dire que le sol. Et je vois que ce nuage-là purifie, enlève toutes les souillures. Et le sol, le fondement était tellement beau. Dieu dit, ce qui te reste, ce n'est que le fondement. Parce que ça, c'est Christ. Alors laisse-moi bâtir ta vie désormais. Laisse-moi bâtir le ministère. Ce n'est pas ton ministère. C'est mon ministère à moi. Deux jugements. Avant que je parte au ciel. Deux jugements. C'est ce qu'il dit ici. L'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun. Sortons des fausses garanties en disant je suis chrétien, je suis ancien ou pasteur, je suis laïc, je suis chantre. Non, sortons de tout ça. Le monde sait faire ça. Le monde a des groupes musicaux. Le monde a toutes sortes de choses. Des médecins sans frontières. Le monde a des journalistes sans frontières qui sont sur tous les fronts de l'humanité. Là où il y a les guerres, ils font de grandes choses. Mais regardons ce que Dieu dit, frère. Il dit ici, il dit simplement, il dit l'œuvre de chacun se révélera et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le salut nous appartient, c'est une grâce. On est sauvé par grâce. Mais les récompenses, ce n'est pas automatique. La Bible dit qu'il sera sauvé comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'il va arriver, les bras vides. Les mains vides, il rentre et puis Dieu ferme tout juste le paradis. Il dit, ouf, je suis rentré. Ouf, j'ai pu rentrer quand même, Seigneur. Mais après, tu seras quoi? Quelle est ta récompense? Lis dans Apocalypse, on dit les vainqueurs. Quelle sera ta récompense? Le papa a dit ce matin, nous comme ça en Afrique, on dit hein, papa, on dit papa. Papa a dit ce matin, il a parlé de l'œuvre, il a parlé des œuvres, des bonnes œuvres. Il a dit que son papa s'arrêtait à Éphésiens 2, 8, 9, et lui, il a découvert que 10, c'est mieux encore. Éphésiens 2, 10, c'est mieux. Pourquoi? Il a dit que les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour chacun d'entre eux, afin que nous les mettons en pratique. Donc, on dit l'œuvre de chacun. Quand on pense à ça, de quoi il s'agit? Alors, en regardant la Bible, nous savons que le salut est gratuit. Éphésiens 2 nous a déjà dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don. Donc le salut est un don parce que Christ est mort à la croix du calvaire. Il a pris nos péchés. Il nous a réconciliés avec le Père. Par sa résurrection, nous sommes justifiés. Par sa glorification, le Saint-Esprit est descendu. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est la garantie pour le salut et en marchant avec lui. Mais maintenant, regardons, il n'y a pas que le salut, il y a des récompenses. Mon frère, tes récompenses sont préparées par toi sur la terre. Ce n'est pas par le Saint-Esprit, c'est toi qui les prépares. Et regardons maintenant, Et il y a des endroits que les chrétiens ne veulent pas lire. Et regardons dans Matthieu 25, il y a des passages que les chrétiens évitent le maximum. Ils font du slalom géant. Quand ils voient quelque chose, ils passent comme ça. Toi, entre les versets bibliques, tout ce qui est bon, c'est là-bas, ils s'arrêtent. Mais tout ce qui ne plaît pas, la chair, ils s'en vont. Mais on ne peut pas faire autrement, on doit lire. Hein. Qu'on veuille pas, on doit les lire. Parce que quelqu'un qui a la clé, ce n'est pas toi qui as la clé, ce n'est pas moi aussi. C'est quelqu'un qui a une clé et c'est lui qui sait ouvrir. Il a dit que lui, il ferme, personne ne peut ouvrir. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Donc, il vaut mieux qu'on ressorte de la séduction et qu'on s'assied au pied du Seigneur pour être entraîné. Beaucoup seront étonnés quand il dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et dans quel domaine il va dire cela? C'est étonnant. Tout le monde se dit, ah oui, la sanctification, oui, elle est importante. Mais regardons dans Matthieu 25, regardons attentivement le verset 31. La Bible nous dit ici, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, lorsqu'il viendra dans sa gloire, avec tous les anges, vous entendez? Avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ça, ce n'est pas l'enlèvement d'abord. Hein. L'enlèvement, il ne vient pas, il ne pose pas les pieds. Il est dans l'air, et les deux trompettes, et les anges sonnent, et l'Église est enlevée, ceux qui sont restés vivants sont enlevés, les morts en Christ sont en premier lieu. Dieu m'a fait grâce de voir l'enlèvement textuellement, comme il l'a décrit là. Il l'a vu textuellement. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle du quand tout est fini. Regardons l'Église maintenant. L'Église. L'Église est composée de quoi? Il dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. C'est lui qui sépare. Toutes les nations sont rassemblées. On n'a pas dit les païens. Les païens ne se trouvent pas ici. Les païens, c'est quoi? Ce sont ceux qui n'ont pas cru. Les incrédules ne se trouvent pas ici. Non, on parle de ceux qui ont cru. Mais il va les mettre en deux groupes. Un groupe, à sa droite, les brebis. L'autre groupe, les boucs. Les boucs ne sont pas mauvais. Puis dans la Bible, on trouve le bouc sur lequel Aaron posait ses deux mains, sur lequel le péché d'Israël était transféré pour amener dans le désert, le bouc d'Azazel. Le bouc n'est pas mauvais. Le bouc est un genre de chrétien qui est différent de la brebis. Regardons maintenant ce que la Bible nous dit. Et il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, verset 34, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, un, vous êtes bénis de mon Père, deuxièmement, prenez possession du royaume, prenez possession. Actuellement, nous vivons le royaume en potentiel, nous le manifestons potentiellement, mais il dit cette fois-ci, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, tout est arrêté. Jésus dit, il dit, béni du Père. Ensuite, prenez possession. Alors, prenez possession pourquoi? Pourquoi doivent-ils prendre possession? La question est là. La Bible répond à la Bible. Il dit, car j'ai eu faim. Il ne parle pas des choses spirituelles selon nous ici. Il ne parle pas du nombre de démons que nous avons chassés. Il ne parle pas du nombre de malades que nous avons guéris par le ministère de l'onction. Non, il ne parle pas. Cet aspect, déjà, ça c'est lui qui l'a fait à travers nous. Il parle maintenant de ceux dont vous avez dit cette semaine-là, la mission intégrale ou holistique et autres, il parle de ça, cet aspect-là. Il dit, j'ai eu faim. J'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. Restons là. J'ai eu faim et soif. Il parle des deux éléments, la faim spirituelle, la soif spirituelle, mais aussi la faim naturelle et la soif naturelle. Il parle des deux. Pas toute vérité est parallèle dans la Bible. Dès que Dieu est l'auteur du naturel, il est l'auteur du spirituel. On ne peut pas séparer les deux. Quand il parle du naturel, il parle du spirituel. Les deux vont ensemble, parallèlement. Il dit faim et soif. Ça veut dire que nous avons reçu la grâce de Dieu. Et Jésus dit maintenant, dans vos rues, dans les rues du Verdon, de Genève, de Lausanne, il dit, j'ai eu faim et soif. Vous m'avez non seulement nourri, mais vous m'avez abreuvé. Mais quels sont ces hommes-là? pour résumer, parce qu'on n'est pas là dans un message long, c'est toujours pour résumer, vous êtes intelligent, vous savez de quoi il s'agit. Ce sont des gens qui avaient soif et faim de Dieu spirituellement. Ils sont pleins dans votre ville. J'ai dit hier, ce sont les Zachées. Hier, j'ai dit ce sont les Zachées, c'est le groupe des Zachées. Qui ont tout, qui sont satisfaits matériellement, qui ont des comptes en banque fournis. Mais regardez le nombre de suicides dans leur milieu. Regardez leurs enfants, le taux de suicide. Prenez sa statistique et regardez. Comment se fait-il que quelqu'un qui a mangé à boire, écoutez-moi frère, vous allez comprendre quelque chose. Quelqu'un qui a mangé à boire, qui loue dans une maison, tout est, il y a les climatiseurs, les frigos sont remplis de nourriture. Il a au moins une ou deux voitures, il se suicide. Et en Afrique là-bas, le monsieur n'a même pas de chaussures, il ne mange pas à sa faim, il ne boit pas à sa faim, il n'a même pas une pensée de suicide. Dites-moi un peu, vous qui connaissez toutes choses là. Je vous pose la question, il y a un problème que vous avez. Je ne mangeais pas chez moi à ma faim. J'ai grandi dans une famille très pauvre, mais je n'ai jamais eu une pensée de me suicider. Le taux de suicide en Afrique est très, très, très faible. Vous avez tout ce que vous voulez. Deux voitures, deux garages, deux frigos, trois et dix et quoi, tout. Et tout le temps, c'est le vide. Oh, je suis malade, je suis blessé, on m'a rejeté. Quelle est cette histoire? Les affamés spirituels, les assoiffés spirituels sont dans vos rues partout, partout. Ça fait 35 ans que je viens, vous ne pouvez pas me cacher, ça fait 20 ans que je viens en Suisse ici. Ça fait 20 ans que j'ai prêché la Suisse alémanique, partout j'ai prêché en Suisse. Avant que tu sois peut-être un enfant de 5 ans, j'ai déjà prêché ici. Ne me raconte pas d'histoire, je connais la Suisse. Non, je vous pose la question. Ils sont là dans vos rues. Ils sont là. Qu'est-ce que vous avez fait, jeunes gens, je vous ai dit hier. Êtes-vous allé vers eux? Leur avez-vous donné l'eau vive, comme la Samaritaine? Jésus s'est déplacé exprès, il fallait qu'il parte par la Samarie. Il était à pied, le fils de Dieu, celui au ciel ne marche jamais. Celui qui ne connaît pas la poussière, vous vous dites que vous êtes civilisé. Qui est plus civilisé entre vous et Jésus? Jésus est plus civilisé, oui ou non? Jésus était dans l'abondance, il était sans péché, il ne connaît ni le sommeil, il ne dort pas, il ne mange pas, il ne veille pas. Mais il est venu sur la terre des hommes et il a marché pour aller en Samarie, pour rencontrer une Samaritaine qui avait faim et soif de Dieu. Il a refusé de boire l'eau du puits, il a refusé de manger la nourriture de ses disciples parce qu'il avait une faim, une soif d'amener le Père pour que le cœur du Père soit heureux. Que le cœur du Père soit heureux. Le cœur du Père soit heureux. Alors, quand tu as réjoui le cœur du Père, depuis l'année 2012, combien de personnes as-tu amené à Christ? Ils ont bu l'eau vive. Combien de personnes à qui tu as donné le pain vivant, la parole de Dieu, et ils sont revenus à la vie? Je te pose la question cet après-midi. Combien? Depuis le 1er janvier, nous sommes le 9 septembre. Combien de personnes dans tes villes-là tu as amené à Christ? Voici les œuvres-là. Ceux qui ont faim et soif. Ça, c'est le côté spirituel. Mais il y avait ceux qui avaient faim et soif physiquement. Il a amené un groupe qui l'a suivi. Ils sont allés au désert. 3 jours après, ils avaient faim. Jésus leur dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Moi, j'ai nourri leur âme. Je leur ai donné le pain de vie. À vous maintenant, de leur donner le pain pour le corps. Vous devez en être capable. Ah, Seigneur. Ah non, mais Seigneur, tu sais, ils n'ont qu'à aller. Non, le Seigneur dit non, donnez-leur vous-même à manger. Il n'y a pas d'esquisse là-dedans, il n'y a pas à esquiver cela. Donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire qu'il y a la nourriture au milieu de vous. Quelle que soit la quantité de cette nourriture-là, si vous êtes prêt à partager cette nourriture-là, alors l'abondance viendra à votre niveau. C'est le secret que vous devez apprendre. Et c'est le secret que ça fait 35 ans que je vis apprendre à donner. Ma mère, qui n'était pas chrétienne d'abord, qui était une musulmane fervente, et qui, on était 6 enfants, sans rien, notre père est mort, et elle n'avait rien, mais elle donnait toujours, et elle nous a dit, vous n'allez jamais souffrir. Aucun de mes frères ni sœurs a souffert, pas dit que je connais ce principe-là. Et donner. Le peu, et chaque fois, on ne manquait de rien. Pourquoi vous voulez retenir des choses que vous allez lâcher? Vous ne voyez pas chaque jour des gens qui meurent, qui s'en vont laisser des frigos remplis? Vous ne voyez pas chaque jour des greniers, des gens qui s'en vont laisser des greniers? Pourquoi, frère? Ils ont faim. Ils ont soif. Elle a dit, Ruth a dit tout à l'heure, Ésaïe 58, 7. Elle dit, mais vous voulez jeûner et prier. Il dit, les jours de votre jeûne. Mais il y a des pauvres qui n'ont pas à manger. À côté de vous, il y a des gens. Qu'est-ce que vous faites de cela? Individuellement, je ne parle pas de l'église communautaire. Je parle individuellement. Les as-tu invités? As-tu donné à manger à cet homme-là, à cette femme-là? Au lieu de ça, vous êtes adapté à la pensée des hommes de vos nations qui disent qu'il ne faut pas nourrir un pauvre, sinon vous devenez l'autre pauvre et que ce n'est pas bon. L'Église ne doit pas aller dans le sens du monde. Si nous sommes l'Église, suivons Jésus, pas le monde. Le monde n'a pas à dicter notre attitude. Le monde n'a pas à nous imposer quoi que ce soit. N'oublie pas, c'est quelqu'un qui tient la clé. Les récompenses sont données par quelqu'un qui te regarde chaque jour. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et il a mis le Saint-Esprit en toi afin que tu ne lui échappes pas. Tout ce que tu fais, tu vois, le Saint-Esprit envoie ça régulièrement. Choup, choup, ça monte, ça monte. Tu ne peux pas lui échapper. C'est pourquoi les hommes veulent copier ça en mettant la puce pour que tu n'échappes pas à la police de ton pays. On met la puce à n'importe quel endroit, on peut te savoir quelles sont tes coordonnées. Mais le Saint-Esprit a déjà tes coordonnées, du ciel comme à la terre. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, il est au courant. Donc c'est pourquoi, occupe-toi des affamés spirituels, occupe-toi aussi des affamés naturels. Des gens qui ont faim. Il dit, ouvre ta porte aux malheureux. Il dit, mais par ce système-là, Dieu peut te récompenser même en envoyant des anges chez toi. La loi de l'hospitalité est une des grandes lois de la Bible. La tsunami qui n'avait pas d'enfant a exercé la loi de l'hospitalité envers Élisée, le grand prophète, qu'elle ne connaissait pas. Elle a reçu Élisée, elle l'a invité chez lui. Et chez elle, du moins, ils ont mangé. Elle a dit à son mari, nous ferons une chambre haute. Son mari dit, ok, nous allons mettre Élisée. Mais à cause de cette loi de l'hospitalité qu'elle a appliquée, Élisée a dit, mais à récompense, du moins à honneur de prophète, il y a une récompense de prophète. Il dit, madame, il dit à Géasi, qu'est-ce que la dame a besoin? Géasi dit, dans la maison, depuis qu'on vient, il n'y a même pas un enfant. Il dit, appelle-la. Puisqu'elle a honoré le prophète, alors le prophète va l'honorer. La loi de l'hospitalité déclenche la bénédiction de Dieu dans votre vie. La loi de l'hospitalité, vous n'avez pas besoin, frère. Écoutez-moi. Vous n'avez pas besoin de crier, de pleurer. Vous n'avez pas besoin de garantie. Vous n'avez pas besoin de prendre assurance vieillesse. Vous n'avez pas besoin de assurance. Quelle assurance vous voulez prendre? Vous voulez garantir des choses dont vous n'êtes pas sûr. Le problème, c'est ça. Vous appuyez sur ces choses-là. Et vous laissez la grande récompense que Dieu aurait pu vous donner. Combien de gens, leur vie, leur ministère ont été changés simplement. J'ai un ami en Inde. Il a un grand ministère. Son gardien veillait sur son terrain, le terrain de l'église. Un Indien. Et un jour, il était tellement honnête, intègre avec son patron, qu'un jour, vers 2h du matin, il était appuyé sur son bâton de gardien et il priait. Il dit, Seigneur, merci de ce que le patron m'a embauché. Avec l'argent que j'ai, je nourris ma famille, je bénis ma famille et tout. Vraiment, je suis content. Brusquement, le ciel s'ouvre et la gloire de Dieu descend. La voix de Dieu dit, tu as été fidèle parce que j'ai regardé. Je t'ai testé. Je savais crée en toi, je peux te faire confier. Il est aujourd'hui un des grands milliardaires de l'Inde. C'est un gardien parce qu'il a été fidèle, il a été loyal. Il a exercé la loi de l'honneur. Ce sont des choses que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas l'argent qui est important. C'est la loi de l'honneur, la loi de l'hospitalité, la loi de la reconnaissance. Ce sont ces lois spirituelles-là qui déclenchent votre destinée, qui changent la destinée de vos enfants, qui vous catapultent dans votre destinée. Ce n'est pas la prière, la prière, la prière, non. Ce sont ce que vous pratiquez, les œuvres que vous pratiquez. Jésus insiste sur ça. Il dit, j'ai eu faim. C'est lui qui parle. C'est le récompenseur qui parle. C'est lui qui va donner les récompenses. C'est lui qui parle. Personne ne peut l'obliger. Et il n'a pas peur de quelqu'un. Il n'a pas peur ni de vous, ni de moi. Il s'assoit tranquillement et il vous regarde. Il dit, madame, venez là. J'ai eu faim. Pendant ma vie, pendant ceux qui étaient là, tu n'as rien fait. J'ai eu soif. Tu n'as rien fait. Qu'allez-vous dire? Si vous voulez parler, on vous montre le film. Bah, tout est filmé. De même qu'il y a des caméras pour filmer ici, les caméras viennent d'où? Tout ce qui est dans le naturel vient de la pensée divine. Alors, mon ami, vous voyez là, j'ai été nu, vous m'avez vêtu. J'ai été étranger. Voyons, j'ai été étranger. Sautons ça même. Ne parlons pas des étrangers. Il y a des mauvais étrangers aussi qui créent des problèmes aux gens. Laisse tomber. S'il y a trois mauvais étrangers, le quatrième est bon. Prends le quatrième. Non, j'ai dit à mes frères africains aussi d'être calmes là, parce que parfois ils viennent là, ils disent, ça fait 35 ans que je viens, j'ai été intègre avec tout pays, j'ai été intègre dans chaque pays, je n'ai jamais demandé de tromper quelqu'un, jamais. Pourquoi? Bon, je tiens à la gloire de mon père. Quand vous venez dans un pays, respectez le pays, honorez le pays, honorez les habitants et vous allez mieux vivre. C'est important. Je leur ai dit aussi, parfois il vaut mieux être la tête d'un lion en Afrique que d'être la queue d'un lion en Afrique que la tête d'un rat en Europe. Parce que si vous êtes la queue d'un lion, vous êtes un lion, oui ou non? Quelqu'un peut attraper la queue d'un lion? Même la queue du lion est aussi puissante que le lion lui-même, oui ou non? Alors c'est mieux. Si vous êtes un rat, n'importe qui peut écraser votre tête. Ça, c'est des choses importantes dans la vie qu'il faut comprendre. C'est la sagesse qui est de Dieu, que Dieu met aux gens. C'est pourquoi partout où je vais, je marche comme citoyen du royaume des cieux. Je ne marche pas comme Africain, je ne marche pas comme Burkinabé, je ne marche pas comme ceci ou cela. Je marche comme un citoyen du royaume des cieux. Sans complexe d'infériorité, ni de supériorité, sans jalousie, rien. Parce que l'amour de Dieu remplit mon cœur. Je suis content, mon identité est bien connue, je suis enfant de mon père. Et quand je suis enfant de mon père était le grand Dieu. Il m'a placé sur la terre comme ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire sur la terre. Et je le représente dans tout son royaume. Pourquoi vais-je être complexé devant quelqu'un? Pourquoi? Tu as deux oreilles, j'ai deux oreilles. Tu as deux pieds, j'ai deux pieds. Ton sang est rouge, mon sang est rouge. Ou bien? Alors? C'est des choses qu'il faut. Il y a des certitudes qu'il faut avoir dans son cœur. Des certitudes qui vous donnent de rentrer dans le feu sans problème. D'affronter les autorités sans problème. De rencontrer des bandes. Quand nous avons commencé à évangéliser les enfants de la rue, c'est la même chose. Ceux qui sont nus, c'est les enfants de la rue. Ils étaient dans les rues de Ouagadougou. On les a amenés. L'église m'a dit, hey, pasteur, tu vas nous créer des problèmes. Pas tout le temps, au moment où on fait le culte, et ils sont en train de voler les voitures. Ils ont dit, pasteur, cette fois-ci, tu t'es trompé. Hein? Tu as amené des mauvais gars. Il dit, mais ils ne sont pas aussi mauvais que vous. Laissez-les. Dieu va leur parler. Aimez-les simplement. Mais aujourd'hui, notre télévision et tous nos bâtiments, la tour de prière qui a construit, ce sont ces enfants-là, on les a formés, ils sont devenus aujourd'hui, ils sont mariés. Aujourd'hui, ils sont des gens honnêtes. Ils ont vu ce qu'il y avait en nous. C'est ça. Ils étaient nus, on les a habillés. Aujourd'hui, l'un de nos plus grands techniciens, tout le monde le connaît, c'est un enfant de la rue. Nos maçons, ce sont des enfants de la rue. Nos menuisiers, qui sont pour l'église, c'est des enfants de la rue. Pourquoi? On leur a montré de l'amour. C'est de ça que Jésus parle. J'ai été nu et vous m'avez vêtu. J'ai été nu, vous m'avez vêtu. Vous m'avez chaussé. Vous avez, mesdames, vous avez 15 paires de chaussures. Et les gens viennent à l'église, non, vous ne regardez même pas tout complètement est parti. Non, non, vous êtes tout le temps là en train d'acheter. Vos armoires sont remplies de vêtements. Qu'est-ce que vous allez en faire? Non, qu'est-ce que vous allez en faire? Non, je vous parle sérieusement. En 2007, quand mon époux est décédé en 2007, mais ma maison, c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Les armoires étaient remplies de vêtements, des chaussures, partout. Je me suis assis un jour, je me dis, mais tiens, elle n'a pu amener rien de cela au ciel. Mais c'est terrible. Elle n'a rien amené au ciel. Rien. Ni les bracelets, ni les montres, ni les bijoux, rien de ce que nous avons investi n'a pu aller dans son cercueil. Et Dieu m'a dit, oui, c'est ça que vous, les hommes, c'est votre orgueil. Vous gaspillez de l'argent pour des choses. Regarde, rien n'est monté au ciel. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu es obligé de prendre, de donner aux pauvres, mais ce n'est pas avec bon cœur. Pour moi, ça ne compte pas. Si tu donnes aux pauvres maintenant, pour moi, je ne note pas ça. Ce n'est pas de bon cœur, c'est par obligation que tu donnes aux pauvres. Faites attention. J'étais nu. Et ce n'est pas fini. Il dit, j'étais en prison, j'étais malade. Et vous m'avez visité, malade. Les malades sont partout dans nos maisons. Ce dont Jésus parle là, il parle ici que tant qu'on est sur la terre, il n'y a pas un seul pays développé. Parce qu'il n'y a pas un seul pays développé, pourquoi? Parce qu'il parle de prison, il parle de malade et il parle des autres choses. Ces trois éléments que vous devez considérer, dans ma définition, un pays est développé quand il y a trois conditions qui sont remplies, trois conditions principales. Pour moi, c'est ça un pays développé. Le pays que je verrais développé, c'est le pays où il n'y a pas de prisonniers, il n'y a pas de prison. La prison est votre conscience cachée. Ça veut dire en réalité, vous n'êtes pas développé, puisque vous prenez tout ce qui est mauvais ou caché quelque part dans une prison. La prison prouve qu'il y a des choses imparfaites là, que votre société, c'est le rebut de votre société. Même si la prison est un hôtel de 3 étoiles, mais c'est une prison quand même. Premier élément. Deuxième élément, c'est le pays où il n'y a pas d'hôpitaux. Troisième élément, c'est le pays où il n'y a pas de cimetière. Les pays développés, c'est ça. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de cimetière. Alors, puisque tous les pays ont ça, que ce soit des prisons malveillantes, maldorantes, ou des prisons 3 étoiles ou 4 étoiles, restons tranquilles. Ça, Dieu nous montre par là que malgré nos développements là, il reste des choses qui sont là, dont vaut mieux nous occuper. Il dit, j'ai été malade. C'est vrai que dans vos hôpitaux, on ne vous permet pas de prêcher, mais on ne vous empêche pas d'aller aider des gens avec amour. Vous n'êtes pas obligé d'aller prier tout le temps, alléluia. Non, vous pouvez aller trouver des gens. Vous n'avez pas me dire que tout le monde quand même est à l'aise avec les médicaments. Dans les prisons. Les prisons sont là. C'est ce que Jésus dit. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. Et regardez, on ne peut pas, c'est si simple, c'est 1 plus 1 égale 2. On ne peut pas changer, ce n'est pas une doctrine, il n'y a rien. Ce sont des faits. Les faits sont têtus. Ce sont des faits. Et les justes lui répondit, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? T'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Les gens posent la question, quand? Il dit, mais. Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voici, bien-aimés frères et sœurs, je ne vais pas vous retenir longtemps, mais je vais vous parler sérieusement. préparez votre récompense vous-même en vous appuyant sur ce que le Seigneur a dit dans ces choses-là. N'ayez pas, frère, une fausse sécurité en disant, moi je suis sauvé, il n'y a pas de problème, je fais ce que je veux. Ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas de cela. Ne vous leurrez pas, ni les pasteurs, ni personne. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur dit. Donc, tu es sauvé, mais tu n'as pas de récompense. À quoi ça sert de ne pas avoir de récompense? La Bible dit dans toutes les sept églises-là, chaque église a une récompense. Il dit, celui qui vaincra, comment? Il va vaincre comment? On ne parle pas d'un combat. On parle de celui qui a obéi et qui a trouvé les œuvres, qui a pratiqué ces œuvres-là. Cet homme ou cette femme-là va aller de l'avant. C'est pourquoi dans Jacques 2, pour terminer, Jacques 2, je vais le lire et puis on va prier Jacques 2. Regardons attentivement, bien-aimés frères et sœurs, il est bon que de nous remettre en cause un peu, de nous secouer et de sortir du sommeil. Ah oui, il faut sortir du sommeil, il ne faut pas se leurrer. Jacques, chapitre 2, verset 14, il est écrit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver, vous entendez? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? À quoi sert-il de dire à quelqu'un que vous allez prier pour lui, pour qu'il ait la nourriture? Il dit, à quoi ça sert? Rien. Parce que la foi agit toujours. La foi est accompagnée d'œuvres spirituelles, comme d'œuvre naturelle. La foi est toujours comme cela. Il n'y a pas de foi qui n'est pas rendue visible. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous avez des missionnaires parmi vous qui sont dans différentes nations du monde que vous avez envoyés. Et il est bon toujours de les soutenir, mais il est aussi bon de développer ici cette vision donnée aux jeunes gens. Les jeunes gens sont pleins dans vos églises. Il est bon de les faire sortir tout le temps un peu des concerts. Il est bon de les faire sortir des concerts. S'il vous plaît. Vous pensez maintenir la jeunesse dans les concerts. Vous croyez que la jeunesse est bête? Vous leur donnez tout le temps concert, concert, concert. Vous croyez que ça, concert, ça peut nourrir quelqu'un? Ça, c'est une séduction. C'est comme ceux qui ont pris leurs enfants, mais devant la télévision. Tout le monde a vu aujourd'hui les conséquences de la télévision sur les enfants. Tout le monde le voit. Quand la télévision est née, les parents qui vont au travail, ils ont pris les enfants installés devant la télévision. Ils sont devenus quoi? Des brigands, des bandits et tout. Par la télévision, leur a communiqué des choses. Et le monde n'a pas été satisfait. Le monde a inventé beaucoup de choses qui créent des problèmes à la société. C'est parce que les enfants ont vu au cinéma comment les gangs qui arrêtent les trains, qui font des vols armés, que les enfants ont imité textuellement. Vous pensez qu'une église où les enfants, les jeunes, doivent apprendre à compter sur le Seigneur, doivent apprendre à demeurer dans le Seigneur, doivent marcher dans le Seigneur. Ils sont remplis de concerts, de chants. Qu'est-ce qui va se développer? Pas l'homme intérieur ne se développe pas. Vous développez leur âme. Vous développez leurs émotions, leurs sentiments. Mais quand ils sortent, ils ne peuvent pas demeurer. Ils ne peuvent pas tenir ferme. Il faut avoir le courage d'asseoir les enfants, les jeunes gens, leur dire, il faut un temps de concert, mais il faut un temps aussi où vous devez prier. Il faut un temps aussi où vous devez évangéliser. Mais c'est ça que j'ai fait. Si les jeunes français ne m'avaient pas évangélisé, moi, un jeune musulman, il serait toujours resté musulman. Peut-être que je serais déjà mort il y a longtemps. Il faut leur dire. Je viens de terminer la semaine dernière l'université des jeunes chez nous, avec 3000 jeunes. L'université des jeunes. 3000 jeunes qui sont venus de 45 provinces, avec des gens venant de la France, de la Côte d'Ivoire, du Togo. Pourquoi ces jeunes gens-là viennent? Vous croyez qu'ils n'ont rien à faire? C'est des étudiants. Vous croyez parce qu'ils sont en Afrique? Non! Ils ont le même problème. Ils ont leurs camarades. Ils sont venus s'asseoir pendant 4 jours. On leur a montré qu'est-ce que le leadership. On leur a montré ce qu'il faut faire. Il est important que vous sachiez donner ces choses-là. Que la jeunesse, vous leur fassiez faire des concerts, mais que vous ne les nourrissez pas de concerts. Le concert n'est pas nourrir un enfant. C'est comme cet enfant, j'étais allé à New York, il a dit à son père qui est très riche, qui lui a donné tout. Un jour, il est venu jeter au pied de son père tout. Son père était assis au salon. Et j'ai vu des choses terribles aux États-Unis. Quand j'arrivais, un monsieur, on met dans les journaux, un monsieur qui a tué son bébé et il met dans le frigo, il enlève les morceaux pour manger. Mais c'est qui? C'est un enfant qui a grandi dans une famille chrétienne qui n'a jamais su lui passer de l'amour. Il a été révolté. Des enfants qui tirent, on dit non, ils ont fait l'école du dimanche. Ils étaient à l'école du dimanche dans telle église. Mais quand ils ont grandi, on ne leur a pas donné. Nous sommes allés en prison. On a demandé pourquoi vous êtes en prison. Il dit, mais on n'a jamais su qu'est-ce que l'amour. Nous ne connaissons pas l'amour. Papa et maman se bagarraient tout le temps. Ils nous ont jamais donné. Ils vont à l'église. Mais quand ils viennent de l'église, la maison devient un ring. Les assiettes volent. C'est la guerre des assiettes. Comment voulez-vous qu'un enfant, en le nourrissant de concert à concert, vous pensez que ça suffit largement? C'est pourquoi la dépression est là. Ayez le courage de faire asseoir la jeunesse et leur parler de l'amour de Dieu. Pas un amour yo-yo, mais un amour qui change, qui transforme. Un amour qui transforme le cœur des gens et qui les lie au Seigneur. Les Daniel, ils étaient là, esclaves à Babylone. Ils n'avaient pas de père ni de mère, mais ils avaient un fondement solide. Les Joseph étaient trahis par ses frères, mais en Égypte, il était seul. Mais il craignait Dieu, cultivait la crainte, amenait-les à prier, amenait-les à jeûner, amenait-les à sortir, aller vers leurs camarades. Si on les chasse, ça ne fait rien. Demain, ils vont repartir. C'est ça que mon pasteur a fait avec moi à Toulouse. Dès que j'étais converti, la semaine prochaine, ils nous ont mis dans les rues. Le pasteur nous faisait sortir, M. Aimé Blanc, pasteur de l'Assemblée de Dieu. On sortait tous les dimanches après-midi, allez, dans les rues. Ah, mais je ne sais pas parler. Tu vas parler. Tu sais parler? Tu ne sais pas dire bonjour? Oui, oui. Alors, dis bonjour aux gens. Mamadou va dire bonjour aux gens. Je suis sorti à les traiter. Ah, bonjour, monsieur, voilà. On vous invite. On a une réunion à côté, là. Il prend, il dit, quoi? Christ? Pouah, bon. Jette. Ah, le pasteur dit, ne parle pas. Montre-leur l'amour. C'est un mais toi, tu es venu ici. C'était la révolution, c'était le communisme à outrance en France. Mais il m'insultait, il dit, mais dans vos pays, là, on vous colonise. Et tu viens ici encore, on te colonise spirituellement. Je m'étais. Pourtant, j'avais 1m95 kilos. J'aurais pu prendre ce jeune homme-là, les grands. Mais l'amour de Dieu est dans mon cœur. C'est là que j'ai su que j'avais été transformé. Et c'est pourquoi ces jeunes gens qui m'ont vu violent à l'université, ils ont dit, mais cet homme a été changé. Ils m'ont suivi à l'église par dizaines. Des Européens, des jeunes frères arabes, des Africains. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont connu. J'étais l'avancement de l'équipe de handball. J'étais l'équipe de basketball. Alors, ils m'ont vu violent. Un homme qui dit non et non. Mais ils m'ont vu changer. Pourquoi? Par notre pasteur. Nous a mis dans les rues. Le samedi, les marchés forains. On amène des choses, on met des marchés, des bibles dans les marchés forains. Là, le long des trottoirs, tout le monde met son stand. Nous avons notre stand de bibles. À l'université, dans les bus, partout, dans les hôpitaux, on rentrait. L'hôpital des cancéreux de Toulouse, tout juste après l'université, nous entrions là-bas et nous demandons au docteur. Nous voulons prier pour les malades. Les docteurs nous regardaient. Ils disaient, mais c'est un hôpital des cancéreux. Ils disent, oui, on est venu pour prier pour les malades. Ils nous faisaient rentrer. On priait. Une grande salle comme ça, des cancéreux. On priait pour eux. Il y avait une petite salle où il y avait des cancéreux en dernière limite. L'odeur de la chair humaine. On dit, on peut rentrer là-bas. Ils disent, non, non, ce sont des gens qui sont sous morphine. On dit, non, est-ce que les docteurs nous ont dit rentrer. Quand on a prié, cette nuit-là, la médecine qui était de garde a dit que tous les malades ont dormi. Et ils ont demandé le lendemain, où sont ces deux jeunes Africains qui sont venus? On n'a pas peur. Pourquoi? Le Saint-Esprit est en nous. L'esprit de courage, l'esprit de force, l'esprit d'amour est en vous. Que faites-vous de ce trésor-là? Que faites-vous de cette puissance-là? Que faites-vous de cette gloire-là, jeunes gens? Que faites-vous? Le monde vous attend. Dieu est avec vous. Il est en vous. Alors le temps est venu, je vais vous demander maintenant, je lance un appel pour terminer. Allez-vous prendre la résolution ce soir-là? C'est une résolution, je ne vais pas prier pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à prier pour les gens dans votre région? Êtes-vous prêts à vous engager avec le Seigneur? Êtes-vous prêts à dire, à soutenir vos missionnaires, leur liste, à les soutenir chaque jour, à genoux? Ceux qui sont là-haut, ceux qui sont en Afrique, au Tchad, partout. Êtes-vous prêts à prier pour eux? Êtes-vous prêts à dire, Seigneur, si tu me donnes quelque chose pour la mission, donne-moi. Dieu vous mettra à l'épreuve, il va vous envoyer la semence, il va vous donner l'offrande. Et vous allez voir, si vous êtes prêts pour cela, vous tenez debout, on va prier pour terminer. Si vous êtes convaincu, hein, si vous n'êtes pas convaincu, restez assis. Mais si vous êtes convaincu, tenez-vous debout. C'est un seul appel que je fais, et puis le groupe musical va nous entraîner après dans la musique. Mettez votre main sur votre cœur. C'est un engagement, puisque vous devez connaître le cœur de Dieu, le battement du cœur de Dieu. Alors mettez votre main sur votre cœur. Dites, ô Seigneur, je te remercie cet après-midi, car je vois le battement de ton cœur. Ton cœur bat pour les meurtris, les affamés, les assoiffés, ceux qui sont nus, qui sont malades, qui sont en prison, ceux qui sont déroutés par la vie, blessés par la vie. Mais jusqu'à ce jour, mon cœur n'a pas été attentif. Mon cœur n'a pas battu au rythme de ton cœur. Mais cet après-midi, Seigneur, je décide, par ta grâce et l'assistance du Saint-Esprit, de me livrer à toi. Seigneur, je n'ai plus peur. Je ne veux plus hésiter. Mais je vais m'engager à prier pour ces ministères, mais aussi à donner, à m'investir, Seigneur, à faire un petit sacrifice pour que ton œuvre aille de l'avant. Je suis béni ici en Suisse et des multitudes d'hommes et de femmes sont complètement démunis. Mais je m'engage aujourd'hui par ta grâce, Seigneur. Je ne compte pas sur moi-même, mais je compte sur ta grâce. Aide-moi, Seigneur, à me livrer et à me donner afin que ton royaume se manifeste. Merci, Père. C'est au nom de Jésus. Amen. N'ayez pas peur, Dieu fera. Ne croyez pas que Dieu va enlever vos comptes en banque. Et c'est pourquoi certains sont tués là. Il ne faut pas vous taire. Dieu est bon, il est fidèle, il est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Merci Mamadou, on peut l'applaudir. Restez debout, nous allons continuer maintenant avec encore un temps d'adoration pour terminer cette conférence, pour nous consacrer aussi à Dieu. Ce n'est pas seulement des chants qu'on chante pour animer, mais c'est notre proclamation de foi à ce Dieu vivant qui nous envoie à son service. Alors place au Gospel Band.